en l'air, et il implore Dieu, et il prie toute la journée. Toute la journée, il intercède, il prie, et il voit ce qui se passe dans la vallée. Et au bout d'un moment, c'est force manque.
Bah forcément, à force d'avoir les bras levés.
Alors, c'est ses frères, Aaron et Hur, qui vont être l'un à sa gauche, l'autre à sa droite.
Ils vont étayer.
Qui vont tenir ses bras de manière que les bras ne faiblissent pas. Parce que quand les bras lui tombaient, on peut dire, à Moïse, eh bien, en bas, dans la vallée, c'était les ennemis qui dominaient.
Ah oui.
C'est une grande leçon spirituelle pour nous.
Ah oui.
Et par rapport aussi à notre pays, hein, au combat que nous avons mené pour que la famille, qui est la clé de voûte de la société, soit maintenue en bon état.
Ah oui.
Il y a eu beaucoup de prières pour ça, des manifestations aussi. Et alors, notre pays a, je crois, en ce moment, depuis 2 ans, avant également, hein, mais depuis 2 ans, la famille a été attaquée comme jamais. Hein, c'est l'institution noyau de la société.
Ben oui, c'est la
Elle
base.
A été attaquée, dévalorisée, dénaturée. Et je pense que la prière des chrétiens a fait que toutes ces manifestations, les mouvements des veilleurs qui étaient aconfessionnels, je le rappelle, tous ces mouvements, les mères veilleuses hein, qui étaient dans la rue, ces femmes, mères de beaucoup d'enfants, qui passaient la nuit à prier au pied de nos cathédrales et de nos rues, avec des pancartes en parlant de la famille. Et puis plein d'autres mouvements encore. Hein. Eh bien, les Antigones, nommer. Tout cet ensemble de gens qui se sont sentis responsables, eh bien, ont freiné maintenant le dispositif déferlant qui tombait sur notre pays.
Oui.
Et je ne vise pas un parti politique, là. Je vise des mesures qui ont été prises et qui sont tellement peu intelligentes parce qu'elles sont à très court terme.
Mais oui, c'est ça. Mais on en voit quand même là, même en apparence, on avait l'impression que voilà, qu'il n'y avait rien de... Mais on voit que justement, il y a un frein.
Bien sûr, on n'a pas été écoutés sur le moment, mais nous sommes restés au poste. Et nous avons montré au camp d'en face...
Veiller et prier.
Oui, et nous avons montré au camp d'en face que nous sommes une force maintenant dans la nation et que ben, nous serons là toujours. Et là, je ne parle pas encore là de politique politicienne.
Non, bien sûr.
Je parle de la défense des valeurs morales, de l'éthique. Je parle de la défense de la famille, institution divine. Et de quantité d'autres choses.
Et du bien commun. Hein.
Voilà. La GPA, la PMA. Alors, on a été là, on sera toujours là. Et moi, je conseille à ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent et qui ont fait partie de ces mouvements, de ne pas désespérer. Parce que nous avons été là, nous avons pu freiner ce processus qui maintenant est au stade de la lenteur. Et je pense que dans le camp d'en face, on a pris peur. Ce qui est une bonne chose.
Alors justement, hein, avec tout ça, on peut être fatigué et chargé. Et Jésus nous dit, venez à moi. Alors c'est la première chose, dans toutes ces situations. Venir à Dieu.
Il faut le décider.
Il faut le décider. Hein, voilà. C'est une décision à prendre.
Comme je le disais, la maturité, c'est pas dire à Dieu, regarde ce que j'ai fait. Je m'en suis sorti tout seul. J'ai pas besoin de venir à toi.
Oui, c'est un peu...
Non, un petit enfant qui dirait ça constamment à ses parents, j'ai pas besoin de vous. Ben, il s'installerait dans quelque chose de malsain. Bien au contraire, l'enfant montre qu'il a besoin de son papa et de sa maman. Il pleure quand ils sont pas là. Il a besoin pour grandir. Nous aurons besoin jusqu'à notre mort sur la terre, qui, je le rappelle, est une porte, un passage seulement, c'est pas une fin. Nous aurons besoin d'être des élèves, des étudiants, des enfants, voilà, qui petit à petit grandissent et qui ont besoin de recevoir constamment de Dieu. Et c'est à ce titre-là qu'il faut venir à Dieu et ne pas économiser ses forces dans ce sens. J'ai besoin de toi, Seigneur, et de plus en plus.
Voilà, je suis un enfant. D'ailleurs, spirituellement, nous avons à redevenir des enfants.
Jésus l'a dit.
Venez à moi, laissez venir à moi les petits-enfants.
Oui,
donc,
oui.
Parce que c'est eux qui... Bah, qui ont compris dans leur vulnérabilité qu'ils ont besoin de...
Voilà, ils reconnaissent leur fragilité, ils reconnaissent qu'ils ont besoin des autres.
Alors justement, c'est ce qui est difficile quand on est adulte. Il y a deux mouvements, hein, cette autonomie humaine, donc progressive, et puis ça peut aller à l'encontre Sur le plan spirituel, c'est un double mouvement, on a l'impression. Hein,
oui, oui, c'est vrai.
Mais ça va ensemble.
Oui, et l'apôtre Paul disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Alors, il reconnaît que sa maturité d'homme est bonne, bien sûr, mais que ce n'est pas parce qu'il a cette maturité qu'il est fort devant Dieu.
Il reconnaît qu'il
est faible devant Dieu.
Et pourtant, Paul avait des forces, c'était un...
C'était un battant.
Je dirais
même que c'était plus qu'un battant. Mmh. Hein, c'était un persécuteur renommé. Hein, au nom de Dieu, il enchaînait les chrétiens, il les faisait tuer.
Bah oui.
Il aimait tellement Dieu, mais d'une manière qui n'était pas bonne, mais il ne le savait peut-être pas, puisque Dieu l'a gracié, Dieu l'a touché sur le chemin de Damas.
Ben oui.
Donc peut-être qu'il croyait vraiment rendre service à Dieu.
Ben sûrement, parce que tout d'un coup, il a vu son erreur finalement.
Oui, en quelques minutes, il est tombé à terre, il est devenu aveugle, et sa première parole ensuite, quand il s'est relevé, c'est « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Autrement dit, ça y est, j'ai compris, je suis ton serviteur, je ne ferai plus comme moi, je pense, faire pour toi, mais je ferai comme toi, Dieu, tu me diras de faire pour toi.
Donc, être dans la volonté de Dieu, dans l'obéissance.
Oui, il a été brisé, il a appris le brisement. Mmh. Et un jour, Chantal, nous devons l'apprendre, ce brisement. Ça peut être au bout de 10 années de vie spirituelle, hein, de prière et de vie chrétienne. Mmh. Ça peut être au bout de 20 ans qu'on apprend ça. Mais on est tellement têtu. Je parle de moi d'abord. Hein.
Chacun.
Je suis tellement têtu qu'il m'a fallu des années parfois pour apprendre à rester dans le repos. Et le thème de ce soir, c'est vraiment ça.
Oui.
Je vous donnerai du repos.
Oui.
Plus j'ai de fardeaux, plus j'ai de soucis, plus il faut que je découvre le repos et que je rentre dans le repos. Ah, mais comment faire?
Comment faire?
Puisque les fardeaux et les soucis, au contraire, nous rendent inquiets et ça ne nous repose pas. Alors voilà.
Merci, pasteur Philippe Osney. Donc ce soir, nous partons de cette parole de Matthieu, chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous allons écouter tout de suite la communauté des Béatitudes. Eh bien oui, si tu savais le don de Dieu. Hein, c'est vraiment, c'est lui qui nous donne tout. Hein. On a tout à recevoir de lui. Alors, si tu savais le don de Dieu.
Radio Notre-Dame.
Voilà, c'était la communauté des béatitudes. Si tu savais le don de Dieu. Eh bien, le don de Dieu, voilà. Jésus nous promet, nous dit que nous tous qui sommes fatigués et chargés, il nous dit de venir à lui.
De venir à lui, oui.
Et il nous donnera du repos. Oui. Et c'est de ça, nous avons besoin de... Mais ce repos en lui, c'est...
Le repos en lui, oui, c'est autre chose. On ne peut pas le recevoir, ce repos, ou le fabriquer,
oui.
Par des moyens humains. C'est pas possible. Enfin, y a, quelquefois ça marche, hein, je veux dire, bon... Mais la plupart du temps, quand il y a des fardeaux pesants, qu'on a des soucis qui durent depuis des années, il n'y a qu'en priant et en déposant nos fardeaux sur Jésus-Christ que nous arrivons à trouver la paix. La paix, on l'obtient parce qu'on sait qu'il est là. On l'obtient parce qu'on s'attache à lui plutôt qu'à nos fardeaux. Voilà. Imaginons une balance, hein, d'un côté il y a des fardeaux, de l'autre côté il y a Jésus qu'on va mettre. Et Jésus doit peser plus lourd que les fardeaux. Et c'est à Jésus que je vais m'attacher.
Même s'ils sont très lourds, Jésus pèse... poids de Jésus est infiniment plus grand.
Je le dis souvent, moi qui voilà, parcours certains trajets en avion. Par exemple, j'ai vu la Tour Eiffel vue d'en haut, j'ai vu l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, en survolant Paris. C'est tout petit. Mmh. Alors nos fardeaux, soit nous les voyons à leur taille réelle, ce qui est un leurre, souvent, c'est un faux semblant.
Mais soit si nous prenons de l'altitude...
Prenons de l'altitude, nous allons dans les lieux célestes, puisque Paul, dans l'Épître aux Colossiens, le dit. Hein, vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, il s'agit de regagner cette place par la prière. Et du coup, le fardeau, on le voit d'en haut. Et on se dit, c'est ça. Par exemple, j'ai survolé le Mont Blanc, j'ai survolé plein de chaînes, la chaîne des Alpes, par exemple, j'ai survolé. On n'arrive pas à percevoir que ce sont des montagnes. On voit pas le relief depuis le haut. Mm-hmm. Hein, on voit la neige, mais on voit pas le relief. Et ça, c'est intéressant, parce que plus je développe ma vie spirituelle, plus Jésus-Christ devient mon trésor, plus je m'intéresse à Dieu et je fixe mon regard et mon cœur sur lui, moins je paniquerai, je m'angoisserai au sujet de mes fardeaux et de mes épreuves. Alors, c'est pas en luttant contre les épreuves qu'on arrive à s'en sortir.
Non, c'est en prenant de l'altitude avec Jésus.
C'est en prenant de l'altitude avec Jésus. D'où l'importance de la prière et de faire prier pour nous dans des moments comme ça. Et de venir à Jésus, comme je l'ai dit. Quelquefois, il y en a qui me disent, mais je vais casser les pieds à Dieu parce que tous les jours, je lui redis les mêmes choses.
Mais il attend que ça.
Il est honoré. C'est un bon père. Et il est honoré du fait que tu aies recours à lui.
Mais oui.
Hein? Et donc, n'hésite pas à le faire. Tu lui casses pas les pieds. Les enfants ne cassent pas les pieds aux parents. Bon, sauf par moments nerveusement. C'est un petit peu difficile. Mais en général, un enfant, on l'aime tel qu'il est.
Bien sûr.
Et on est honoré qu'il nous demande. On est honoré qu'il vienne vers nous.
Alors, et Dieu n'attend que ça aussi. Hein?
Mais Dieu n'attend que cela. Et ça lui prouve notre fidélité.
Hein?
Voilà, donc le premier point que j'ai développé, c'est de venir à Dieu. C'est pas évident, il y en a qui ne le font pas parce qu'ils sont révoltés par leurs épreuves. Ils tournent le dos à Dieu, ce qui se comprend.
Hein? Et rendre aussi Dieu responsable.
Parfois rendre Dieu responsable, voilà. Alors que Dieu
n'est pas responsable,
ne crée pas l'épreuve. Hein, c'est Satan qui l'a créé l'épreuve, et puis c'est notre péché également. Et puis c'est la conséquence aussi de la chute en Éden, le péché originel,
hein, bien sûr.
D'Adam et Ève.
Bon. D'avoir tourné le dos à Dieu. Hein,
c'est ça. Donc ça a entraîné des fissures dans tout notre système.
Hein. Et on en paie toujours les conséquences.
On en paie toujours les conséquences.
Mais...
Il y a un virus qui se balade.
Ah oui.
Il se balade partout. Il détruit pas mal de choses. Voilà.
Mais justement, en revenant à Dieu, hein, venez à moi, là, voilà, c'est ça la clé.
C'est ça la clé, il ne faut pas épargner nos venues vers Jésus. Hein. Moi, à Paris, quand j'ai 1 heure, 2 heures, je vois une église, hein, souvent c'est des églises catholiques qui sont ouvertes, j'y vais. Et je reste là 1 heure. Je m'assieds sur une chaise et je reste pendant 1 heure les yeux fermés. Et là, je contemple le Seigneur. Et je suis bien. Et combien de fois j'ai été visité par le Seigneur dans des temps de méditation ça.
Ben oui.
Si tu fermes les yeux sur toi-même et sur ce monde, tes yeux s'ouvrent sur les dimensions spirituelles et sur les dimensions des lieux célestes.
Et on prend de l'altitude avec
On prend de l'altitude. D'ailleurs, on ressort de ces moments de prière, plein d'énergie, d'espérance, on a de la foi à nouveau, on n'a plus le même regard. Alors ça, c'est très intéressant. Donc, il faut venir à lui. Il est dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous tous.
Oui, tous, sans exception.
Sans exception, c'est tout le monde qui a besoin de ça. Et alors, la promesse, c'est si on vient à lui avec notre fatigue et tous les poids de nos fonctions, aussi quelquefois professionnelles, familiales, eh bien, la promesse de Dieu, c'est de nous donner le repos.
Voilà. Eh oui.
Et ce repos ne s'achète pas. C'est pour ça qu'il y en a peu qui le trouvent. Parce que s'il était payant, les gens l'achèteraient. Eh oui.
Surtout il y aurait dans une agence. Société où tout s'achète.
Oui, il y aurait des agences qui auraient pignon sur rue. Ça serait auto-repos, le nom des agences. Voilà, auto-repos.
Auto-repos.
Mais tu fais quoi? Eh ben, je vais une heure dans cette agence et là, j'achète pour 200 euros de repos. Et là, on me l'injecte. Voilà. Mais beaucoup de gens, en fait, sont à la recherche de ce repos.
Mais oui.
Et c'est gratuit et c'est dans la prière que tu peux l'obtenir en te tournant vers Jésus. C'est simple.
Hein? C'est simple et c'est gratuit.
Et c'est gratuit. Et c'est efficace.
Efficace. Ça a tout est qualité. Hein?
Tout est qualité. Oui, oui. Tout est qualité. Et c'est vrai qu'après une réunion de prière communautaire qui est bonne, qui est spirituelle, on ressort, on se sent léger.
Hein? Oui.
On volerait presque comme les anges.
Bah oui, parce qu'on est... Une autre altitude.
Hein. On est dans les dimensions du ciel.
Oui. Hein.
Et là, il n'y a plus d'espace qui compte, il n'y a plus de temps. Hein.
Oui.
L'espace-temps est complètement changé.
Oui, c'est ça. Oui.
Et on s'est élevé et on en ressort transformé, vraiment.
Transformé, et même nos soucis n'ont plus la même densité. Ils sont là, ils peuvent être là toujours, mais on ne les voit plus de la même façon.
Oui, il y a moins d'impact.
Oui.
Il y a moins d'impact sur nous. Qu'est-ce que je dirais? Il faut nous habituer à le faire, cela. Sinon, on va se laisser, j'utilise un terme qui est pas très beau, mais on va se laisser bouffer par nos soucis, par nos inquiétudes. Hein, Et ça va nous ronger de l'intérieur. Et les maladies psychosomatiques se développent à cause de cela.
Forcément, oui.
Hein, voilà. Alors, si ton fardeau, tu l'as donné à Jésus, tu sais qu'il le prend, et lui, au moins, il va s'en occuper. C'est parce que tu l'as donné à Jésus qu'il va s'en occuper. Si toi, tu le gardes, tu empêches Jésus de s'en occuper.
Bah oui.
C'est normal.
Bah oui, on le garde, donc, dans les cotons. Si on lui remet, il s'en occupe. Oui.
C'est comme, je vais prendre un autre exemple, 100 euros. Hein, 100 euros. Je les garde sur moi. Il ne va rien se passer.
Non.
Ils ne vont pas se multiplier. Mais je les donne, par exemple, à la banque. La banque va me donner des intérêts. Hein. Et pourquoi la banque peut me donner des intérêts? C'est parce que j'ai lâché cette somme. Je l'ai déposée chez le banquier.
Voilà, déposé, c'est le cas de le dire.
Alors, l'exemple de l'argent n'est pas forcément un très bon exemple, mais c'est
enfin, le mouvement, on comprend.
Voilà.
Alors, c'est pareil, avec Jésus, on lui donne, il s'en occupe.
Il s'en occupe.
Et bien.
Et il s'en occupe bien.
Bien mieux que nous.
Pas forcément tout de suite d'un coup de baguette magique, mais dans le temps, on s'aperçoit que Dieu travaille bien. Et c'est bien parce que c'est lui qui le fait. On ne peut pas nous accuser d'avoir fait des choses par derrière. C'est Dieu qui nous rend justice et qui fait les choses. Mais encore faut-il avoir donné à Jésus authentiquement la fatigue, la lassitude, les poids, tout ce qui nous
fardeau, les soucis,
tanne, tout ce qui nous fait mal.
Oui, toute situation difficile. Et justement, le premier fruit, c'est le repos. On se sent allégé.
Eh oui, et c'est un témoignage, je le disais en début d'émission, c'est un témoignage pour les autres qui nous voient sereins, en paix, tranquilles, voilà.
Malgré les difficultés
qu'on vit, et ça c'est un miracle, c'est surnaturel.
C'est sûr, donc là voilà, venir à lui, fatigué, chargé, il nous donne du repos, ça c'est sa promesse. Et il le réalise.
Alors, il y a d'autres éléments que nous allons discuter pendant cette émission.
Alors justement, après, il nous dit, C'est d'ailleurs paradoxal parce que on lui donne notre fardeau, mais il nous dit de prendre son joug. Alors prendre un joug, c'est quand même c'est lourd. Enfin bon, prendre son joug. Voilà. Alors peut-être qu'il serait bon de redire parce que ce que c'est que le joug, parce que.
Oui, et nos amis agriculteurs qui nous écoutent ce soir, et il y en a, agriculteurs, cultivateurs, etc., ils savent mieux que nous ce qu'est un joug. On en utilise moins maintenant, mais on utilise
toujours des joug. Non, il y a des tracteurs et tout ça, donc il y a moins de...
Mais il y a des coins retirés, je pense à la Corse, enfin, des endroits retirés où les jougs sont toujours utilisés. Alors le joug, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce en bois très lourde, qui sert à rassembler deux animaux ensemble. Et cette pièce en bois très lourde, deux côtés qui sont légèrement voûtés, légèrement creusés, parce que c'est à cet emplacement-là que on mettra le cou de chaque animal. En général, ce sont deux bœufs.
Oui.
Hein? On place le joug sur le cou des bœufs, on l'attache. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les deux animaux devront aller dans la même direction.
Ben oui, là, ils sont ensemble, ils doivent avancer ensemble.
Voilà. Alors, ceux qui connaissent bien ce phénomène du joug savent qu'un homme de la terre, qui est habitué, un paysan, il va mettre donc deux bœufs sous le joug, dont un bœuf qui sait déjà conduire le joug.
Il y en a un qui
il y a un ancien,
qui...
et il y a un jeune. Le jeune apprend comment il faut faire. Hein? Alors l'ancien, lui, il sait qu'il faut aller tout droit.
Mmh.
Hein? Il connaît la direction. Et c'est lui qui va entraîner l'autre.
Voilà, l'impulsion,
il
c'est lui qui va
tirer un peu. Mmh. Oui, c'est lui qui va... Voilà. Parce que si un bœuf veut virer à gauche et l'autre à droite temps... Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, on ira nulle part. On va massacrer le travail, puisque le travail, c'est quoi? C'est derrière, il y a un soc. On trace un sillon.
Mmh. Hein? Donc le soc.
Le soc qui va pénétrer dans la terre, soulever des mottes et tracer le sillon dans lequel le cultivateur ensuite va semer la graine, hein, le grain. Alors important de savoir que parce qu'il y a un ancien qui conduit l'attelage, ça se passera bien.
Il connaît le métier.
Il connaît le métier. Hein? Et le paysan est assis sur la charrue derrière. Il a un petit fouet, mais il connaît la bête qui dirige l'attelage.
Il l'a choisi aussi pour ça.
Il l'a choisi pour ça, voilà. Alors, il y a une efficacité là. Il y a un ancien et il y a un jeune.
Hein? C'est qui apprend le métier.
Oui, et c'est très parlant. Jésus dit, prenez mon joug sur vous. Mon joug.
Le sien.
Mon joug, le sien. Ça veut dire que sous le joug, il y a Jésus lui-même et il y a moi.
Hein? Comme les deux bœufs, là.
Comme les deux bœufs.
L'ancien, enfin,
voilà. Et prenez mon joug sur vous, le mien, celui que j'ai déjà, c'est ça que ça veut dire, celui que j'ai déjà, moi.
Hein?
Donc, je me mets dans l'attelage, comme le plus jeune bœuf, hein? Je vais me mettre là, le joug, bien sûr, va un petit peu me faire mal au début, va m'empêcher d'aller où j'aurais voulu aller.
Ma volonté.
Hein, comme... mais, alors, qu'est-ce qui joue là? Bah, c'est la confiance. Le jeune bœuf va obéir au plus ancien. Il va avoir confiance. Il va se laisser faire. C'est dans ce sens-là que Jésus dit « Mon joug est doux. » Il est doux. Donc, c'est l'inverse de rugueux.
Et oui.
Alors, évidemment, moi, je comprends qu'un chrétien qui se met sous le joug de Jésus, mais qui rue dans les brancards sans arrêt en voulant faire sa volonté, « Moi, je. »
Oui, ben, ça sera pas doux.
C'est
il
bien
va s'irriter
évident.
Le... Oui.
Bien sûr, il va se faire des plaies au cou. Hein? Ça va être rugueux. Et le bois, on le sait, un gros morceau de bois qui frotte notre peau, et ben ça va l'irriter et la faire saigner.
Mmh.
Hein? Alors certains chrétiens disent, ouais, la volonté de Dieu, elle est tellement difficile, elle est tellement dure, j'y arrive pas. Sous-entendu, ça me fait saigner, quoi. Hein? J'ai le joug de... Quand je veux prendre le joug de Dieu sur moi, ça me fait saigner, je préfère aller ailleurs, me faire soigner, et au moins j'irai bien. Ah oui.
Mais parce que c'est pas le joug de Jésus.
C'est pas le joug de Jésus. Tu te mets sous le joug du monde, ou de ta propre volonté, ou du plaisir, ou des dépendances, ou de ton pouvoir personnel, hein, l'orgueil, la soif de pouvoir. Tout ça, ça peut être nocif pour notre vie intérieure. Alors, l'état d'esprit du plus jeune bœuf, c'est, ben, je suis l'ancien. Je le suis.
Ben oui, se laisser conduire.
Se laisser conduire. Et là, il y a une humilité à apprendre. Il y a une soumission nécessaire. Et voilà pourquoi certains chrétiens n'y arrivent pas. Parce qu'ils n'ont pas l'humilité. Et ils n'ont pas le désir d'obéir. Ou ils vont obéir une heure.
Et ruer dans les brancards.
Et ruer dans les brancards. Voilà. Alors, ça donne quoi? Ben, ça donne une vie chrétienne maussade, une vie chrétienne qui part dans tous les sens. Notre instabilité rend notre vie chrétienne instable. Et on va accuser ensuite Dieu d'être instable.
Alors, d'être le responsable de...
Le responsable de tout. Alors que c'est nous.
C'est nous, mais on voit pas que c'est parce que on fait notre propre volonté et...
C'est ça, c'est ça. Alors, il y a une deuxième chose que Jésus dit, donc, mon joug est doux. Autrement dit, tu vas pas t'écorcher le cou.
Oui.
Si tu fais la volonté de Dieu, hein, ça sera pas facile, mais tu vas pas t'écorcher le cou. Voilà la promesse, hein. Et j'ai dit que c'est parce que justement, on ne rue pas dans les brancards qu'on va pas s'écorcher. Et il y a une deuxième chose, et on va le voir dans quelques instants, c'est le fardeau léger, Chantal.
Voilà, le fardeau léger. Donc, ce soir, eh bien, avec le pasteur Philippe Osney, nous méditons cette parole de Matthieu au chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors nous vous invitons à nous rejoindre au 01 56 56 44 00. Eh bien justement, quelle expérience avez-vous fait de cette parole de Jésus? Nous allons écouter tout de suite, eh bien c'est le Kyrie d'une messe a cappella d'Antonio Lotti par le chœur de chambre de Sophia.
Radio Notre-Dame.
Thank you.
C'était donc le Kyrie d'une messe a cappella d'Antonio Lotti par le chœur de chambre de Sofia. Alors ce soir, avec le pasteur Philippe Osné, cette parole de Jésus que nous relate Matthieu au chapitre 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, nous disions que Jésus nous dit comment faire. Hein. Il nous dit de prendre son joug. Hein, on a vu ce que c'était que le joug.
C'est donc un acte volontaire, Chantal.
Ah oui, prenez. Oui, c'est ça, ah oui. Un acte volontaire. Bah oui.
Si Jésus dit prenez mon joug, ça veut dire qu'il nous le met pas
d'office.
D'office.
Alors, il nous laisse libre.
Il nous laisse libre. On peut
patifoler
dans l'herbe des prairies, aller ramasser les jonquilles et dire bah, Dieu est bon, voilà, je suis heureux, tout va bien. Eh oui, mais ça suffit pas. On le sait, dans des réunions où il y a beaucoup d'émotionnel,
oui.
C'est bien l'émotionnel, on en a besoin. Mais s'il y a que de l'émotionnel, du batifolage émotionnel, il y a un manque d'enracinement.
Bien
sûr, et on le sait,
c'est pas le même niveau.
Il faut que la foi rentre bien à l'intérieur et qu'on devienne
sans racine.
Sans racine. Voilà, et d'où l'importance vraiment de méditer ces paroles de Jésus. Alors, prenez mon joug sur vous, c'est un acte volontaire. On peut très bien venir à Dieu en étant fatigué, chargé, et qu'il nous donne du repos, mais on ne se met pas sous le joug.
Alors, c'est peut-être intéressant de voir la différence. On peut aller à lui.
Recevoir voilà. Du repos.
Oui, donc.
Ça va mieux.
On est mieux, oui. Et on repart avec notre volonté propre.
Et on repart avec notre volonté propre. Et on s'étonne que ça recommence après.
Bah oui. Et c'est pas étonnant.
Ça recommence parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout.
Alors, justement, bien comprendre qu'est-ce que c'est que prendre le joug volontairement. C'est dire oui.
C'est dire oui.
Accepter.
Voilà, dire oui à la volonté de Dieu. Oui. Hein? Le joug représente un état de soumission à la parole de Dieu et à sa volonté.
Hein? Alors, qui peut s'exprimer donc dans sa parole, bien sûr.
Dans sa parole.
Dans les événements.
Par un responsable, un accompagnateur spirituel, par oui des événements. Enfin, Dieu se débrouille bien hein, pour nous montrer ce qu'on a à faire.
Oui, oui,
il
oui.
nous fait rencontrer les bonnes personnes au bon moment. C'est nous quelquefois qui ne les discernons pas. Hein. Alors là, nous sommes devant un choix. Soit nous prenons ce joug de la volonté de Dieu qui nous apparaît d'abord comme un renoncement paralysant.
Oui.
C'est vrai que c'est paralysant au début d'être sous un joug.
Ben oui, il faut s'y adapter. Il faut s'adapter à la situation.
On fait plus ce qu'on veut.
Ben oui.
Et nous ne l'enseignons pas assez dans nos églises et dans nos groupes de prière.
Et surtout parce qu'on on est dans une société ambiante qui ne favorise pas du tout
c'est
cela.
C'est ça, c'est ça. Et moi je le dis souvent, préparons-nous à souffrir. Hein, Paul disait à Timothée, je ne sais pas combien de fois dans ses épîtres, dans ses lettres à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Hein, » Comme un bon soldat. Un soldat, c'est un mec, excusez-moi, c'est un mec qui a appris à souffrir. Hein. Et parmi les personnes que j'aide, j'ai un militaire hein, qui forme les tireurs d'élite. Hein, c'est pas n'importe quoi. Et il me dit certaines choses. Hein. Mm-hmm. Bon, ben, ce sont des hommes qui ont appris à souffrir. Et c'est très très difficile parce qu'il y a des entraînements pas faciles du tout. Quand on est tireur d'élite, hein, c'est physiquement c'est très dur. On doit être placé dans des conditions difficiles. Et apprendre à se défendre et à supporter beaucoup de choses.
Et être vigilant en même temps.
Être vigilant.
Oui, être
voilà.
Présent.
Alors, Paul dit à Timothée comme un bon soldat. Déjà, il nous annonce que la vie chrétienne est un combat. Et le chrétien qui ne veut pas souffrir, qui ne veut pas rentrer dans un combat, ben, c'est tout à fait contradictoire. Hein, puisque la vie chrétienne est un combat. Là, je vais parler politique, mais d'une manière générale. Les politiques sont des combattants.
Oui.
Sont des combattants. On a vu le duel de ces deux femmes qui voulaient devenir maire de Paris, hein, peu importe leur parti. D'ailleurs, là, je ne fais pas de politique ici, je parle des politiques en général. On les a vues, c'était une guerre ouverte.
Pendant, oui, bien sûr.
Pendant... plus que des mois d'ailleurs, je crois que c'était un an et demi, deux ans à l'avance.
Ah oui, bien sûr, ça se prépare
elles
à long terme.
Elles ont ouvert le tir. Voilà, et l'une a gagné, l'autre perdu. Mais celle qui a perdu, n'a pas tout perdu finalement, parce qu'elle elle a appris des choses aussi en faisant cela.
Hein. Bien sûr.
Et celle qui a gagné maintenant va se mettre au service de la ville qui l'a choisie. Mais c'est un combat, la vie est un combat. Je le dis souvent aux jeunes qui me disent « ouais, je trouve pas de boulot, voilà, voilà, j'ai pas de thunes, ça va pas, puis ça, j'en ai marre, cette société est pourrie, on est gouverné par des imbéciles, etc. » Je dis « bon, il y a une partie de vrai dans ce que tu dis, mais tu n'as pas encore découvert que la vie est un combat. Mais bien sûr, tu restes au plumard jusqu'à 11h chaque jour. Tu trouves pas de boulot, mais tu restes au lit. Tu ne fais que manger, tu fais que penser à ton plaisir. » Ben, lève-toi tôt, le travail pour ceux qui se lèvent tôt. Mais je sais que c'est pas facile, sinon, hein, même ceux qui se lèvent tôt, quelquefois, vivent des mois, voire des années de chômage.
Hein. Oui, c'est difficile aujourd'hui.
C'est pas facile. Hein. Mais la vie est un combat. Alors, donc, si on se met dans cet état d'esprit que notre vie chrétienne sera un combat, ben, on se prépare. Le sportif se prépare. D'ailleurs, l'apôtre Paul parle de l'athlète qui n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles.
Et il parle de marathon, hein, c'est pas... voilà, c'est de l'endurance.
C'est de l'endurance. Alors, si on a compris que la vie chrétienne est un combat, qu'il va y avoir des ennemis, des oppositions, des harcèlements de l'ennemi, ben, on va pas se prendre en pitié ou dire « oh là là, c'est catastrophique » ou prendre peur. On va résister, persévérer. Persévérer. Mais pour arriver à résister, il faut rester sous le joug. Si tu sors du joug, tu vas prendre des balles. Et il y a des tireurs isolés qui sont embusqués, qui vont pouvoir t'atteindre. Mais si tu restes sous la protection du Seigneur, sous le joug, tu vas éviter bien des tracas. Bien des tracas. Alors ça s'apprend. On peut très bien ne pas vouloir le faire. Moi, je fais ce que je veux. Alors, il y a des chrétiens, ils disent, tiens, je vais faire une retraite spirituelle là. Puis ensuite, ils ne prient même pas, ils ne réfléchissent pas, ils ne discernent pas.
Hein. Quand... C'est selon leur... voilà.
Oui, selon leur goût du jour, voilà. Ce sont des chrétiens instables, je le dis avec gentillesse, hein, je les incrimine pas. Mais ils ont pas appris la stabilité. Et je les vois faire. Ils disent, non... Alors, vous voyez, ils s'inscrivent dans un séminaire, et puis... ils vont rester une demi-journée au lieu d'une journée et demie. Ah ben voilà, finalement, non, je repars. Alors, ils sont jamais contents. Ben oui, ils écoutent leurs émotions, ils écoutent leurs pensées. Et Jacques, dans son épître, parle de ça.
Oui.
Il parle de ceux qui doutent sont comme les flots de la mer agités de ci, de là.
Oui.
Les flots de la mer. Et chacun sait qu'un flot de la mer... est agité, on peut on peut pas le saisir. Si on le prend dans la main, d'ailleurs, c'est fini. C'est plus un flot, c'est une quantité d'eau, hein, et dès qu'il est dans la mer, il bouge, et là, c'est un flot. Alors, il y a des chrétiens, donc, qui ne veulent pas se soumettre, qui n'ont pas compris qu'il leur faut discerner ce qu'ils doivent faire quand ils sont avec le Seigneur, hein. Et le Seigneur peut très bien dire, non, tu ne fais pas cette retraite spirituelle. Là, tu vas aider telle association, par exemple, ce week-end-là. Ou ce week-end, c'est pour te reposer, tu es fatigué. Donc, il nous faut écouter Dieu. Et on en vient à l'autre mot d'ordre de Jésus, qui dit...
Donc, prenez mon joug sur vous et recevez,
voilà,
mes instructions.
Recevez mes instructions... voilà, c'est oui, au début du verset, alors c'est quoi? C'est le verset 29, hein,
oui,
prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. J'ai souvent buté là-dessus, je me dis quoi? Je prends le joug sur moi et je reçois les instructions de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai pensé à l'alliance d'un pilote de compétition. Bon, souvent ils sont seuls dans leur voiture, mais quand on fait des rallyes, on a donc
un copilote.
Avec soi un copilote dont le but est de dire au pilote qui conduit le véhicule, attention, il va y avoir un virage où là on doit être à 80, là, il lui donne des instructions. Hein. Mmh. Alors c'est cela, le joug de Jésus nous permet de rester liés à lui, donc dans sa proximité, donc dans sa présence.
Eh oui.
Quel bonheur,
la d'être présence dans sa Dieu. Présence, oui, je comprends.
Quel bonheur. Et deuxièmement, ce joug fera qu'on sera à portée d'oreille de ce que dit Jésus
qui est
avec nous sous le joug.
Oui.
Et recevez mes instructions. Ben oui, c'est sous le joug. C'est quand je fais la volonté de Dieu, dans la soumission et l'humilité, qu'ensuite je peux percevoir sa voix.
Bien sûr.
Et là, il peut me dire des choses à l'oreille qui vont me servir pour ma vie chrétienne.
Et personnellement, adapté à chacun.
C'est un accompagnement personnel.
Oui.
Hein, c'est extraordinaire. Alors, là encore, il y a des chrétiens qui se plaignent et qui disent, mais Dieu ne me parle pas. Voilà, vous avez bien de la chance, vous, de recevoir des paroles de Jésus. Ben, je dis, ben oui, j'en reçois. Oui, Dieu me parle intérieurement. J'ai des intuitions où je lis la Bible et puis hop, ça me parle, j'accroche. Et c'est la parole de Dieu révélée pour moi aujourd'hui. Oui, Dieu me parle. Mais je suis sous le joug. Donc, à quelques centimètres de la bouche de Jésus qui parle.
Qui parle et donc à l'oreille.
Mon oreille l'entend. Alors voilà, donc il y a une différence entre le chrétien qui batifole dans les prés d'herbe fraîche. Il est tout content d'être avec son Dieu. Oh, tout va bien, alléluia. Et puis il se met pas sous le joug. Et puis le chrétien profond, sérieux, spirituel, qui lui ne va pas travailler d'abord exclusivement dans l'émotionnel, mais dans la profondeur de la parole de Dieu révélée.
Et il peut tracer le sillon en profondeur.
Et mais exactement, Chantal, là vous ne vous
j'anticipe
j'allais là. Dire non mais j'allais dire vous m'épatez, voilà. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je suis sous le joug avec Jésus. C'est lui qui conduit l'attelage. Il me laisse une marge de liberté quand même. Hein. C'est pas une prison, hein, le joug de Jésus. D'autant plus que le joug, je vais pas le porter tout le temps. Je suis pas tout le temps en train de tracer des sillons. Hein, y a des temps de repos. Hein, où là, je vais pouvoir me reposer et faire un peu ce que je veux, si dans des petites choses. Hein, et même dans des moyennes. Mais dans les grandes, il faut être sous le joug. Oui. Alors, ce joug qui est conduit par Jésus, la conséquence, c'est quoi? C'est que le sillon est droit derrière. Bien sûr, puisque c'est Dieu qui conduit.
Et oui, et il a la perspective, il sait où il va, hein. Et où il nous emmène.
Et oui, puis il est guidé par son Père. Alors, donc la conséquence, c'est que ce sillon est droit et on va pouvoir porter du fruit dans notre vie spirituelle.
Et c'est reposant aussi en même temps.
Et c'est reposant, oui. On n'a pas besoin sans arrêt d'analyser. Oui, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oui, voilà, est-ce que ça c'est bon? Non, je suis dans la confiance, Seigneur. Tu es avec moi, je suis avec toi, tu conduis le véhicule en quelque sorte, tu conduis l'attelage. Ma préoccupation, c'est de rester près de toi. Voilà. Et donc, le sillon va être droit. Et si le sillon est droit, on va pouvoir déposer la graine exactement au bon endroit et ça va porter du fruit.
Et oui. Donc c'est tout bénéfice.
C'est tout bénéfice, mais le fruit ne m'appartient pas. C'est Dieu qui va porter le fruit derrière mon obéissance.
Oui.
Et plus j'obéis, non pas d'une manière légaliste, mais par amour, plus je porte du fruit. Mais au début, le fruit n'est pas d'abord là. Il faut des mois pour que le blé germe.
Bien sûr.
Hein, et qu'on le voit à l'œil nu.
Autrement, la terre travaille, on ne voit pas, mais ça travaille.
Mais ça travaille. Alors, dans la vie chrétienne, c'est pareil. Oui. Il y a des choses qui mettront 2 ans à sortir.
Oui.
Mais par ton obéissance pendant ces 2 années, où c'est peut-être la sécheresse, où tu vois rien, où c'est l'inverse même qui se produit
de ce que Dieu t'avait dit,
où c'est l'épreuve, où tu as des chutes, même des péchés. Parce que le péché nous atteint également dans des conditions comme ça.
Les tentations, oui.
Eh bien, c'est parce qu'il y a eu obéissance que Dieu porte du fruit. Voilà, Chantal.
Voilà le programme. Merci, pasteur Philippe Osnay.
Merci à vous.
Alors, donc, je vous rappelle le téléphone pour nous rejoindre. 01 56 56 44 00. À partir de cette parole de Jésus que nous rapporte Matthieu au chapitre 11, versets 28-29. Venez à moi, à vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Puis nous dit comment, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. On va y revenir et nous vous invitons à nous rejoindre pour nous dire eh bien, comment vous vivez cela, comment vous mettez cela en pratique. On se retrouve à 23h.
Radio Notre-Dame.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace sia con voi.
E con il tuo spirito.
Pour ne rien perdre de la saveur et de la profondeur des interventions du Pape, chaque mercredi à 15h, retrouvez l'essentiel de l'audience du Pape sur la place Saint-Pierre.
Or ou métaux précieux, vous possédez peut-être des bijoux, montres, diamants dont vous souhaitez vous séparer.
À Paris, dans le 6e arrondissement, Recyclor achète en toute discrétion vos valeurs. Lingots, pièces cotées, diamants, platines, bijoux, montres, débris, ainsi que l'argent sous toutes ses formes.
Règlement immédiat après estimation, expertise gratuite.
Recyclor, 29 rue des Saints-Pères à Paris, dans le 6e. 01 42 60 24 24. 42 60 24 24.
Recyclor,
nous donnons un prix à vos valeurs.
Chaque semaine, du lundi au vendredi, Christine Pellistrandi nous éclaire sur le sens des mots. Le sens des mots avec Christine Pellistrandi. C'est du lundi au vendredi à 6h33 sur Radio Notre-Dame.
Dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Ce soir, nous sommes en compagnie du pasteur Philippe Osnay et nous avons pris cette parole de Jésus que nous rapporte Matthieu au chapitre 11, versets 28-29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc nous vous invitons à nous rejoindre pour témoigner un peu de la façon dont vous vivez cette parole de Jésus, la façon dont vous prenez le joug, voilà. Donc c'est important de témoigner de la façon dont nous vivons ce que Jésus nous demande de vivre. Nous avons tout de suite en ligne Adrienne qui appelle depuis le sud-est de la France. Adrienne, bonsoir.
Bonsoir Chantal Bailly, bonsoir Père Philippe Osnay.
Bonsoir.
Bien, moi je me réfère à la symbolique de l'Eucharistie parce que je me dis que le Seigneur, nous allons prendre l'hostie, c'est en fait c'est recevoir le Christ et c'est aussi être en sa présence parce qu'on lui confie toute chose. Alors si on se confie en lui, qu'on lui fasse confiance, hein, se confier c'est confiance, et que nous souhaitons effectivement, dans nos difficultés quelles qu'elles soient, dire moi je suis limitée, je veux bien faire ça, je suis libre, puisque je suis libre de mon choix, mais en fait des fois je suis hésitante et des fois il y a tellement d'épreuves et tout, que nous sommes tous concernés par différentes situations des fois difficiles, si on se demande au Seigneur, quel est ton désir sur cette situation pour moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donne-moi de savoir. Le Seigneur, si on est en cœur à cœur avec lui et que on lui donne notre confiance, il va nous donner cet éclairage et c'est tellement avec lui, c'est la légèreté, c'est-à-dire que il nous donne sa paix tout de suite d'ailleurs, puisque nous sommes avec lui, c'est avec lui c'est toujours facile dans le sens où nous sommes acteurs dans nos vies, mais il nous guide et il nous montre. Alors on a un chemin tout tracé avec lui parce que c'est lumineux et puis il n'y a pas d'équivoque. Hein. Et alors, nous avons cette joie intérieure qui nous permet, avec un certain recul sur les choses, d'accueillir les événements en mettant évidemment le Christ, l'Esprit Saint, Dieu le Père, dans cette, la Trinité, dans cette situation, et on bénit toutes les situations qui viennent, qu'elles soient bon, un peu négatives ou autres, tout bénir. Et effectivement, parce qu'il y a le Christ en tout homme, je pense que, eh bien, on ne peut que rencontrer le Christ là, envers chacun, et toute chose devrait se passer normalement très bien, et on arrive toujours à trouver des solutions, qui sont des solutions toujours bénéfiques pour nous, quand on est le Christ en corps à corps avec nous, dans nos vies. Voilà.
C'est tout à fait vrai, et je pense que vous en parlez en connaissance de cause.
Oui, oui.
Mais ça se sent,
c'est par l'expérience.
L'expérience, oui.
Et je trouve que pour tout à, nous sommes, c'est tellement simple. Parce que moi, ce qui m'attriste, en fait, c'est que je vois souvent, bon, l'église, ça arrive, on a des personnes qui sont tristes, on dirait qu'elles sont sous une, un joug pesant
oui,
de leur
beaucoup,
vie.
Beaucoup, oui.
Et elles n'ont pas de joie, il n'y a pas, il n'y a pas de rayon de, je veux dire,
c'est vrai.
De bonheur. Et intérieur, je veux dire, ça ne rayonne, elle ne rayonne pas quelque chose.
Et vous avez raison. Et le signe de la présence de Dieu, d'ailleurs, c'est la joie.
Et justement, comme
c'est
je dis,
nous
avons sa paix,
la paix, la joie,
parce que on sait très bien que toute chose que on fait avec le Christ, sur le chemin qu'on va prendre avec lui, il nous précède et il nous, et il nous enveloppe. Donc alors, nous ne pouvons que être rassurés. Et donc alors, nous être beaucoup plus épurés de tous nos soucis. Et puis, si on lui offre toute chose, eh bien, il nous montre comment en faire. Donc, ça fait que ça nous allège.
Absolument. Mmh. C'est voilà. Comme quand on a un bon avocat, par exemple, dans une affaire difficile et douloureuse. Le fait d'avoir un bon avocat qui sait nous défendre, ça nous sécurise, ça nous permet de rester en paix également, d'avoir moins d'angoisse et de soucis. Et puis, il est bien écrit que Jésus est notre avocat auprès du Père.
Eh oui. Hein?
Donc, non seulement il est un avocat, hein, mais il est un frère pour nous, il est le Fils de Dieu, et il est mort et ressuscité pour nous, c'est pas une petite chose. Et c'est vrai, il nous transforme, il nous donne sa joie. Et les grandes réunions de prière réussies, où on a accueilli la présence de Dieu, sont des réunions de prière joyeuses. Les gens se lèvent ensuite de la réunion, ils sont tous sourires, ils ont envie de sauter de joie. Ça se produit quelquefois dans des réunions de prière charismatiques d'ailleurs, où on exulte de joie. D'ailleurs, c'est dit dans la parole, exulter de joie, louer Dieu, les psaumes, qui sont des poèmes chantés. Eh bien,
David, hein.
Mais oui, et David en plus dansait,
hein,
et on se moquait de lui.
Mais encore faut-il que, quand moi je vois, je constate cela aussi, qu'il y a bien des louanges, des chants, quand la messe est faite. Par contre, alors il y a des gens qui, dès au sortir sur le parvis, sont tout de suite après, ils reprennent leur programmation, leur conditionnement, et après, ils se retrouvent encore dans le monde avec, évidemment, ils n'ont pas, en fait, recouvert ils ont reçu l'Eucharistie et tout, mais ils n'en font aucun profit, quoi, finalement.
Oui, ça descend pas suffisamment profondément, comme dans la parabole de la semence, une partie tombe dans la bonne terre, une autre partie le long du chemin, une autre partie dans les ronces et les épines, une autre partie dans un sol pierreux. Et donc, c'est comme le soleil, on peut très bien simplement rester quelques minutes au soleil, comme ça, là, l'été, puis se dire, oh là là, qu'est-ce qui fait bon, qu'est-ce que c'est agréable d'être au soleil. Puis on rentre chez soi. Hein. L'été, c'est passer des longs moments dehors à regarder la nature, on s'expose aux rayons du soleil, et c'est très bon pour notre santé d'ailleurs. Alors, Dieu, c'est pas seulement... quelqu'un qui va se donner quand on appuie sur un bouton, il y a le moment de la messe ou du culte protestant ou etc., la réunion de prière. Alors on presse sur le bouton, ça y est, on s'expose à la lumière artificielle. C'est pas ça, c'est l'avoir 24 heures sur 24.
Mais ce qui m'interpelle aussi, c'est que, par exemple, des personnes vont demander des prières pour obtenir ce qu'ils souhaitent dans leur vie ou pour une situation particulière. Et ils prient, mais ils n'obtiennent pas.
Oui,
effectivement, je dis, mais si vous priez que pour obtenir ce que vous voulez, vous,
c'est
pas forcément ce qui convient de bon pour vous. Et que si vous demandez au Christ, il faut demander par Marie, bien sûr, ou vous demandez au Christ, là, il vous montrera qu'il y a un désir de plan de vie pour vous et d'amour qui est peut-être autre et beaucoup mieux. Et beaucoup plus, je veux dire, qui va vous combler avec autre chose, et vous serez heureux à ce moment-là. Oui. Donc vous aurez la paix si vous êtes en relation avec le Christ. Le Seigneur nous laisse libre de notre choix. Mais si on persiste dans notre volonté de vouloir obtenir quelque chose que nous voulons, qui n'est pas forcément bon,
et on bien, se met
alors
pas,
après, il y a, on voit ces personnes, elles sont aigries ou déçues. Oui. Moi, je prie, mais j'obtiens pas.
Et ne se mettent pas forcément sous le joug, parce que pour recevoir les instructions de Dieu et ses exaucements, il faut être proche de lui. Il faut, être un ami intime.
Oui, je sais, mais
alors,
pour
on
ça,
peut
il faut,
imaginer,
je sais pas comme vous disiez,
on peut imaginer qu'elles sortent donc de la réunion, enfin du temps de prière qu'elles ont vécu à l'église, mais elles s'éloignent ensuite du joug finalement, de la soumission à la volonté de Dieu, et elles rentrent dans la soif des convoitises. Hein. Ce sont des convoitises. C'est Jacques d'ailleurs qui parle de cela.
Oui, oui.
Hein, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises.
Voilà.
Alors c'est tout à fait vrai. Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Donc,
Adrienne.
Oui. Merci.
Au revoir, bonsoir.
Au revoir.
Bonne soirée.
Merci.
Au revoir. Voilà, un témoignage sur cette façon de prendre le joug du Seigneur. Hein.
Oui.
Donc de vivre dans sa volonté.
Vivre dans sa volonté, et c'est tous les jours finalement qu'il faut
prier. Ah oui, et remettre sur le métier.
Le matin,
oui.
Seigneur, j'abandonne ma volonté entre tes mains pour cette journée. Tu me demanderas peut-être de faire des choses que j'aurais pas voulu faire, mais j'accepte de m'y plier. Voilà. Alors au début, c'est une certaine souffrance de se plier à ce qu'on n'aime pas forcément. Mais ensuite vient la joie de l'avoir fait.
Et oui.
Et après une période plus ou moins longue, ensuite on a une paix intérieure parce qu'on voit qu'on était fait pour ces choses-là.
Oui.
Dieu avait vu notre capacité, nous ne l'avions pas vu suffisamment tôt.
Ben, il a une perspective plus large que nous.
Oui, puis il nous connaît mieux que nous.
Ben oui.
Donc, combien c'est important de se soumettre à ce joug pour recevoir ces instructions, avec cette promesse que Jésus est doux et humble de cœur.
Oui.
C'est pas un dictateur orgueilleux.
Hein, c'est l'opposé.
Et dur.
Oui.
Il est doux. Et humble de cœur,
oui.
Ça va être une collaboration gentille, gentillette, douce.
Oui. Il nous connaît, donc il sait comment nous prendre aussi.
Oui, et c'est la relation entre un père et son fils,
mais
rappelons-le.
Oui, bien sûr.
Et un père n'est pas tout le temps avec un bâton, hein, en train de battre son fils. Tu vas obéir, tu vas manger cette gamelle, ou sinon tu vas voir tes fesses. Il n'est pas tout le temps en train de faire ça. Hein, il perd son autorité en faisant comme ça.
Ben oui.
Mais alors, il y a des moments, c'est vrai, il prend un peu la baguette, il dit, tu vas manger maintenant. Hein. Et puis, il y a des moments, il va laisser l'enfant manger, et puis, bon, ben voilà, l'enfant va peut-être en mettre un peu partout, mais bon, ça viendra.
Il apprend.
La propreté, ça vient un petit peu plus tard. Hein. Donc, c'est une collaboration, et Jésus a dit, je vous appelle plus mercenaire, mais mes amis.
Oui, parce que le mercenaire ne sait pas ce que fait le maître.
Oui.
Tandis que l'ami sait.
Oui, Dieu le met dans la confidence.
Oui,
il ne sait pas tout, mais...
Il est en proximité.
Il est en proximité. Il se dit, ah tiens, c'est ça qu'il veut faire, peut-être. Voilà. Et ceux parmi nous qui ont fait la volonté de Dieu pendant une longue période, hein, sur 10 ans, 20 ans, nous le savons, nous qui l'avons fait, et qui ne sommes pas meilleurs que les autres, eh bien, nous savons que nous avons réussi, avec peut-être beaucoup d'échecs. Mais nous avons réussi dans le sens que nous avons pris la bonne direction. Et cette direction nous a été d'abord profitable. Et surtout, elle a été profitable pour Dieu.
Alors, parfois, donc il y a ce mettre sous le joug dans cette... mais c'est pas... il faut donc la confiance, la persévérance, et puis... il faut parfois insister parce que c'est pas le résultat n'est pas immédiat forcément.
Non.
Donc il faut cette confiance persévérante.
Oui, qui ne soit pas liée à l'obtention d'un plaisir,
oui.
Une récompense.
Et d'un résultat immédiat.
Et d'un résultat immédiat. Mais cette confiance doit être liée à l'amour. Voilà.
Oui.
J'aime Jésus. Et parce que je l'aime, je sais qu'il a raison. C'est ça, la confiance.
Même si je ne comprends pas tout de suite.
Même si je ne comprends pas. Et souvent, on ne comprend pas.
Ben non.
Ce qui fait dire aux prophètes, mes pensées ne sont pas vos pensées. Elles sont
mes
éloignées.
Chemins.
Oui. Elles sont autant éloignées que l'Orient de l'Occident.
Hein?
Et donc, obéir à Dieu, c'est s'y soumettre sans parfois comprendre du tout où on va.
J'accepte. Voilà. Mais ça se fait aussi progressivement.
L'éclairage voilà. Ensuite. Oui.
L'éclairage
vient ensuite. Moi, je pense à l'apôtre Paul encore, qui logiquement aurait dû affermir les églises. Dieu aurait pu l'utiliser pour faire cela. Il y avait des besoins énormes. On était en période d'évangélisation et de création d'églises. Que fait Dieu ? Dieu permet qu'il aille en prison. Des années.
Donc, apparemment, hein, c'est
en
tout
prison,
l'opposé.
Oui. Enchaîné à un soldat.
Apparemment, c'est l'opposé. Hein,
Mais c'est complètement l'opposé. Et l'opposé même d'un cheminement spirituel qu'on aurait trouvé bon. C'est-à-dire, on aurait voulu que Paul, parce que c'était un mordu, c'était un battant, il voyageait entre les églises, il les fortifiait, il les faisait grandir.
Oui.
On aurait pu dire, Paul, tu es vraiment dans ton appel, c'est bien. Eh bien, quelle a été la volonté de Dieu envers ce grand apôtre ? La prison. Et là, en prison,
paradoxal,
Paul
hein
écrit des lettres pour fortifier les églises pendant des milliers d'années. Oui. Le plan de Dieu, c'était...
C'est à long terme.
À long terme. Dieu avait vu chez Paul une capacité à poser le fondement de, de l'église, corps de Christ. L'église dont il dira qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. Hein. Alors Dieu avait vu cette capacité de Paul et il l'a placé en prison.
Pour qu'au moins il ne soit pas partout parce qu'il n'avait pas le temps d'écrire.
Ça aurait été limité dans le temps.
Oui.
Tandis que là, on peut dire que Paul a rendu des services. Les épîtres pauliniennes quand même sont admirables. Paul a fortifié les églises pendant des milliers d'années.
Et on lit toujours ces épîtres.
On lit toujours ces épîtres qui sont vivantes.
Bien sûr.
Alors, donc, attention, il y a ce qu'on pense que Dieu voudrait faire avec nous, même spirituellement,
Et
même si on est quelqu'un de priant, même si on prie, on se dit, tiens, c'est ça que Dieu veut. Je peux me planter complètement. Et Dieu, peut-être, va m'attirer dans la direction opposée.
Alors, on ne comprend pas forcément tout de suite. Paul n'a sûrement pas compris. Enfin, il a accepté.
Non, il a accepté.
Oui.
Il a accepté. Et il était sous le joug.
Même en prison.
Il était sous le joug de Jésus. Et c'est Jésus qui conduisait l'attelage. Et nous, chrétiens, nous devons apprendre cela. C'est bien d'aller au culte ou à la messe, c'est bien d'aller à des réunions de prière, c'est bien d'aller dans des rassemblements, c'est bien. Moi, je connais beaucoup de chrétiens qui font ça, et ça leur coûte cher. Mais s'ils ne se sont pas mis sous le joug personnel de Jésus, ça ne sert qu'à réchauffer leurs émotions et à les gargariser dans leurs pensées spirituelles.
Donc c'est un enfermement dans...
Oui, voilà, alors ils se nourrissent par l'extérieur, c'est bien, ils vont à la cantine, c'est bien, ils se nourrissent. Mais la vie intérieure, elle jaillit du dedans.
Mm-hmm.
L'apôtre Paul dit encore, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est quoi un temple ? C'est un lieu où il y a la présence de Dieu. Je suis un temple du Saint-Esprit. Chantal, vous êtes un temple du Saint-Esprit. Donc, je n'ai pas à chercher à l'extérieur d'abord, mais à l'intérieur, là où il y a un feu qui est allumé.
Bien sûr.
Il y a la présence du Saint-Esprit. Il y a Dieu lui-même qui est à l'intérieur, la petite lumière rouge qu'on voit devant le tabernacle. Elle doit être d'abord dans le cœur des chrétiens.
Mais oui.
C'est bien d'aller à l'adoration, c'est bien d'aller de méditer. Mais la petite lumière, elle est d'abord en moi, là où je suis.
Oui.
Il faut que je sache... l'observer, l'écouter et rester là dans la profondeur de ce que Dieu voudra me faire faire. Il vibre en moi, il parle. Jésus disait, ma nourriture, c'est fort, est de faire la volonté de mon Père.
Ma nourriture.
On mange 3 fois par jour. J'ai des amis qui mangent 5, 6, 7 fois par jour. Et c'est les barres chocolatées, c'est des gaufrettes et tout, et des crêpes au chocolat. Tout ce qui est bon pour la santé. Alors, moi, je leur dis quelquefois aux jeunes, vous avez bien de la chance encore. Mais vous verrez plus tard vos analyses de sang. Profitez-en pendant que vous pouvez. Parce que plus tard, hein, c'est les triglycérides, c'est le diabète, c'est, etc. Alors, on doit se nourrir par l'intérieur. Dans notre chambre à coucher, Jésus le dit dans l'évangile de Matthieu. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et là, prie Dieu dans le lieu secret. Et Dieu te le rendra. Et Dieu te le rendra. Mais il y a des chrétiens qui n'ont pas compris ça, qui n'ont presque pas de vie de prière personnelle. Dieu leur parle jamais, disent-ils, alors qu'il leur parle à longueur de journée, mais ils n'ont pas appris à l'écouter.
Ben oui.
Et par contre, ils vont écouter le père machin, le pasteur bidule, ils vont aller dans des grandes réunions. Autrefois, il y a 30 ans, ils étaient là avec des petits magnétophones et leurs micros. Alors, d'ailleurs, ils avaient mal au bras, hein. Certains ont dû être opérés, hein. La même maladie que les secrétaires, hein, qui, voilà. Mais c'est grave, d'ailleurs, au bout d'un moment.
Tendine.
Il y a des opérations graves qui doivent se faire quelquefois. Et il y a des arrêts de travail importants. Alors, ces chrétiens-là, moi, je les voyais avec leur micro toujours au premier rang, hein. Ah, pasteur. Oh, vous êtes là. J'avais envie de dire, ouais, je suis là, mais moi, je suis qu'un pauvre. Je suis un vase, je suis simplement un tuyau. Et il faudrait, frère, que vous louiez Dieu qui est à l'intérieur de ce tuyau, mais pas moi, parce que moi je suis rien. Alors ces gens-là, ils nous regardent comme des petits dieux. Hein, on est là. Alors j'ai même une fois un chrétien qui s'est approché sans me demander, qui a pris ma main et qui l'a posée sur sa tête.
Bon.
C'était même pas bénissez-moi mon père, ou pasteur bénissez-moi. Prend ma main. Et de force, la colle sur sa tête. Bon, moi, j'ai honoré son acte de foi.
Parce que il y avait de la foi.
Il y avait de la maladresse, mais il y avait de la foi. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Une autre a mis son gant de toilette. Non, mais véridique.
C'est pas mal.
Oui. C'était une femme. Et dans certaines églises protestantes évangéliques, les femmes doivent être voilées, je veux dire, selon certaines cultures, hein. On croit encore à ça, au voile que la femme doit porter. Alors cette femme n'avait pas de voile, et donc elle a pris un gant de toilette, elle l'a mis sur sa tête, et elle a posé ma main sur le gant de toilette. Eh ben moi j'ai prié pour elle, j'ai dit « Seigneur, tu l'as bénie !» Et elle a été exaucée, parce que c'était des gestes simples.
Bah, comme la cananéenne en fait, enfin bon... Un geste, enfin, une foi vraiment
Oui, c'est ça. Faisons attention de ne pas être des chrétiens qui reçoivent tout de l'extérieur, je disais à l'instant, mais approfondissons ce qui a été semé à l'intérieur de nous. Il faut mettre des bûches dans le feu, et c'est de l'intérieur que ça va brûler. Et ça va brûler, et les autres vont venir se réchauffer. Et cessons d'aller nous réchauffer auprès des autres d'abord.
Être soi.
Faut qu'on soit des chaudières. Hein, et je crie dans le studio, là, Chantal. Les deux autres émissions, je vous le disais, j'avais une sorte d'extinction de voix. Et je vois que Chantal a du mal ce soir. Elle a ce que j'avais avant. En ce moment, il y a beaucoup de choses comme ça, des virus. Et on a du mal à parler. Et ce soir, j'ai retrouvé ma voix.
Alors, donc, il faut y aller, pour en profiter.
On m'entend dans le studio, et tant pis, le technicien est là pour baisser le son au fur et à mesure que j'augmente celui de mes cordes vocales. Non, mais c'est très important, ça, ce que je dis. Alors, les gens qui n'ont pas appris donc à faire brûler leur feu de l'intérieur vont se plier à des modes extérieurs et adhérer à des mouvements qui parlent de ceci, qui parlent de cela, mais là n'est pas le vrai thème.
Un grand merci, pasteur Philippe Osnet. Donc, je rappelle à nos auditeurs le téléphone 01 56 56 44 00. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Comment vous vivez-vous cette parole? Voilà, nous attendons vos témoignages et vos questions aussi. On se retrouve dans quelques instants.
En marche vers dimanche.
Bonjour, c'est Marie-Noëlle Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillée par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de La Fontaine ? Labourez, prenez de la peine, un trésor est caché dedans.
En marche vers dimanche, avec Marie-Noëlle Tabu, du mardi au vendredi à 11h03, sur Radio Notre-Dame.
Bonjour, c'est Sophie de Villeneuve. Retrouvez-moi dans 1000 questions à la fois, l'émission qui répond à toutes nos questions sur la foi et l'Église. Devons-nous obéir au pape ? L'Église condamne-t-elle l'homosexualité ? Devons-nous craindre le jugement de Dieu ? Chaque semaine, un invité répond, explique, éclaire. 1000 questions à la fois, c'est une émission qui ouvre toujours des perspectives. En partenariat avec le site croire.com.
1000 questions à la fois avec Sophie de Villeneuve, tous les mardis à 21h30 sur Radio Notre-Dame.
Vox Libri. Bonjour, c'est Philippe Delaroche. Je vous invite à nous rejoindre sur Vox Libri, l'émission hebdomadaire qui traite de l'actualité du livre religieux, du roman et des essais en compagnie de nos invités.
Vox Libri avec Philippe Delaroche, tous les mardis et jeudis à 11h30 et 19h30 sur Radio Notre-Dame.
Bonjour, c'est Sophie de l'équipe du téléphone du dimanche. Quelles que soient les raisons qui y mènent, la prison est toujours une coupure d'avec ceux qu'on aime. Tous les dimanches, depuis plus de 25 ans, Radio Notre-Dame accompagne les personnes détenues en permettant à leurs familles et à leurs proches de leur transmettre un message par la radio. Vous aussi, participez au téléphone du dimanche pour soutenir un de vos proches détenus. Vous lui offrez, par votre voix, les encouragements et l'espérance qui lui ouvrent un avenir. Votre message est un lien vital et précieux. Le téléphone du dimanche, une voix de l'extérieur pour ceux qui sont à l'intérieur. Retrouvez-nous chaque dimanche de 17h à 18h.
Radio Notre-Dame.
Ce soir donc avec le pasteur Philippe Osney qui exerce un ministère itinérant auprès des personnes en souffrance particulièrement. Le thème, eh bien voilà, hein, c'est l'accablement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voilà une bonne nouvelle, parce qu'on en a besoin. Donc, suivons cette parole de Jésus, prenons son joug, hein, voilà, puisqu'il nous le demande, il nous montre la direction.
Et il nous fait cette promesse, oui, que le joug est doux,
hein, oui, le joug est
et
doux.
Le fardeau léger, on en parlera dans, oui, quelques instants. C'est une promesse.
C'est une promesse. Alors, tout de suite, on écoute Serge, qui appelle aussi du sud-est de la France. Bonsoir Serge.
Bonsoir Chantal.
Bonsoir.
Bonsoir Serge.
Bonsoir pasteur.
Bonsoir, bonsoir Serge.
Voilà, alors on vous écoute
vous
Serge.
Vous êtes de quel endroit Serge, sans indiscrétion là?
Aix-en-Provence.
Ah, Aix-en-Provence. J'y étais il y a 8-9 jours. Voilà.
Oui, oui.
Il y a eu de la pluie ce week-end-là.
Hein. Oui, il y a eu vraiment très mauvais temps.
Très mauvais temps.
De pleuvoir.
Mais en été, ou même en général, la région d'Aix est absolument formidable. Hein.
C'est une belle région.
Il y fait chaud, et puis il y a les cigales qui sont là, oui, constamment. Voilà.
Serge. Alors Serge, dites-nous.
Eh bien, vous savez, quand il faut parler sur les ondes, des fois on ne trouve pas les mots. Alors je voulais tout simplement dire que j'ai trouvé le repos, mais... C'est pas facile parce que c'est quelque chose de très frais encore. Mon Dieu, comment je pourrais m'expliquer cela? En fait, je me suis aperçu d'une chose, c'est que les églises, elles avaient tendance... elles avaient tendance à prêcher un évangile, un évangile de la loi, et non pas un évangile de la grâce. Mmh. Et déjà au départ, je me suis aperçu de ça. Et puis alors certains ils disent aussi qu'ils sont sous la grâce, en fait c'est faux, ils sont toujours sous la loi.
Oui, et peut-être qu'ils s'en rendent pas compte d'ailleurs, où il y a un mélange.
Oui, ils s'en rendent pas compte.
Il y a un mélange entre les deux chez quelquefois.
Oui, et puis finalement, la grâce c'est quoi? Si j'ai très bien compris parce que moi je le dis, je n'ai pas le feu sacré, hein, qui ont le feu sacré, mais moi je ma connaissance elle est livresque. Et puis j'ai fait venir des cassettes et des livres de Paris, et ça fait des années que je cherche que désespérément comme un malade pour le comment du pourquoi afin de d'agir en conséquence. Alors la grâce c'est voici si tu mets ta foi en moi, tes péchés sont pardonnés, tu es lavé, purifié, sanctifié même. Et puis, Et même si tu pêches, tu pêches par faiblesse ou par accident ou parce que tu peux pas faire autrement ou alors des fois tu es dépassé, eh ben je n'en tiens plus compte. Et finalement c'est là où commence la liberté. Et ça c'est un petit bouquin quelque jour que j'avais trouvé, la liberté du chrétien. J'ai dit mais qu'est-ce que la liberté du chrétien? En fait Dieu, même si on pêche, on continue à pêcher. Parce que pour moi, l'homme il pêchera toujours. Et tant qu'on sera sur la terre, le péché sera attaché à la chair. Mais effectivement, c'est là où commence notre liberté, c'est-à-dire que même si on pêche, bon bien sûr, celui qui pêche par malice et par méchanceté, alors lui, il faut qu'il se repente, sinon il se perd. Mais même si on pêche, Dieu n'en tient plus compte. Et enfin commence la liberté. Et c'est dans cette liberté. Enfin, qu'on a la paix, le repos, etc. Enfin, ça tourne autour de ça. C'est pas encore très. Mais ça tourne autour de ça. Je suis sûr que je brûle, mais enfin, voilà quoi, en quelques mots, d'une manière malhabile.
Alors, en tout cas, la grâce, ça ne se mérite pas. C'est ça sa caractéristique principale. Ça ne se mérite pas. C'est-à-dire que faut pas qu'on commence à se dire, Seigneur, tu vois tout ce que j'ai pu faire. Regarde, c'est la parabole du pharisien et du publicain. Hein, tu vois, je jeûne, je donne ma dîme, des offrandes. Tu vois tout ce que j'ai fait. Celui-ci n'est pas ressorti justifié. Tandis que l'autre qui se battait la poitrine, le publicain, qui était un homme mal vu parce que c'était un collecteur des impôts. Eh bien, lui, il disait, il n'osait même pas regarder vers le devant du temple. Il se battait la poitrine et il disait, prends pitié de moi qui suis qu'un pauvre pécheur. C'est celui-ci qui est sorti justifié. Et donc, la justification par la grâce, c'est un don immérité que Dieu nous donne parce qu'il nous aime. Mais nous ne le méritons pas. Et alors ceux qui vivent dans cette dimension du mérite, hein, voilà, j'ai pas fait ça cette semaine, regarde, je me suis abstenu de ça. Oh, Dieu, tu dois être content. Mais ils se trompent de direction.
Ah oui, mais là, il y a une petite déviation là. Si je peux me faire comprendre en quelques mots, par exemple, si hier j'ai péché et j'ai commis un gros péché, parce que bon, j'arrive pas quoi. Eh ben, ça a été payé. Et là, voilà le mystère des mystères, la liberté enfin du chrétien. Vous savez, moi je crois que de toute façon, Dieu si nous pardonne, il nous pardonne pas aux trois quarts ou à la moitié. Hein.
Non, c'est sûr, mais il ne peut nous pardonner que quand nous demandons pardon. Alors, c'est vrai, nous avons comme un joker, nous pouvons nous dire, j'ai une réserve de pardon qui a déjà été mise en place par le sacrifice de Jésus. Et si je suis sincère et que je me repens sincèrement, j'aurai droit toujours à ce pardon. Et c'est quelque chose qui est rassurant pour notre avenir. Parce que nous pouvons vivre dans une fausse culpabilité. Mince, je commets encore des péchés. Et moi, je suis d'accord avec vous, donc Serge, quand vous dites que le chrétien, même le plus saint, le plus consacré, continuera à commettre des péchés jusqu'à sa mort.
Il commettra toujours des péchés jusqu'à sa mort.
Bien sûr, puisque le péché, c'est une
sorte. C'est pour ça qu'il y a eu la grâce. Voilà. Et la grâce, c'est quoi? C'est finalement, tu peux rien faire, mais moi, c'est moi qui vais faire à ta place.
Oui, mais d'ailleurs, c'est ce que Jésus a fait, hein, il a tout pris dans la figure. Finalement, Dieu a envoyé les patriarches, les prophètes, les juges, les rois, c'était pas prévu, mais il les a bénis quand même, du moins ceux qui obéissaient, etc., etc. Dieu a envoyé sans cesse du monde. Et puis, les prophètes ont été lapidés, rejetés, tués. Et finalement, Dieu s'est dit, on va prendre sur nous. Et c'est Jésus qui a tout pris sur lui.
Oui, c'est ça. Finalement, la conclusion de tout ça, c'est que Dieu, il veut nous libérer pratiquement de tout. Et ensuite, qu'on soit heureux. Ça,
Mais il veut notre bonheur, ça c'est sûr.
Oui, et ce bonheur est lié aussi à cette grâce qu'on sait présente dans notre vie. Je ne suis pas aimé par Dieu parce que je pêche ou je ne pêche pas, je suis aimé par Dieu parce que je suis son enfant et j'ai droit à cette grâce imméritée, mais elle est là, elle est servie sur un plateau, c'est à moi de me l'accaparer, mais sans en profiter évidemment, en se disant allez je peux pêcher,
mais,
il y a la grâce.
Mais le côté merveilleux de cette chose-là, c'est que le péché, il est mort. C'est-à-dire que le chrétien, il voit toujours le péché, le péché, le péché, et on prêche le péché, le péché, le péché, et la peur du péché, la peur. Mais en fait, le péché, il est mort quand Jésus, il a pris le péché. Il a pris le péché passé, oui. Présent, et même si on continue à pécher, il les a pris aussi, donc, si je puis dire, il les a pris nos péchés futurs.
Non mais tout à fait, et puis il y a une différence entre le péché et les péchés. Le péché, c'est un état de séparation d'avec Dieu. Et à la croix, en effet, vous l'avez dit, Jésus a porté sur lui ce péché. Et ce qui fait dire d'ailleurs, je crois que c'est Jean, qui dit que nous ne sommes plus pécheurs, dans ce sens-là. Une fois qu'on est converti, qu'on a donné notre cœur à Jésus, nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous commettons encore des péchés. Les péchés, c'est quoi? Ce sont des actes qui déplaisent à Dieu dans le courant de notre vie.
Qui ne sont pas pleinement ajustés.
Mais le péché, en effet, a disparu. C'est comme un virus, par exemple, qui était là, et Dieu a enlevé le virus à la croix.
Le péché a disparu et les péchés, c'est-à-dire que tout a été détruit, c'est-à-dire
on
le
est
péché
d'accord.
N'existe plus. Par contre, pour l'homme impie, le péché existe toujours, il est toujours, il est toujours fort. Mais pour celui qui a mis sa foi, parce qu'on est sauvé que par la foi, on n'est pas sauvé autrement que par la foi.
Pas par les œuvres.
En faisant des bonnes œuvres, la charité ou des efforts ou des mérites ou quoi que ce soit qu'on est sauvé, on est sauvé uniquement que par la foi. Et c'est par la foi que Dieu a tout détruit, si vous voulez mieux. L'homme est comparable dans une prison où Dieu a détruit la porte de la prison, il a détruit la prison et il a détruit la montagne où était construite. C'est-à-dire, il n'y a plus rien.
On est d'accord, Serge. Merci.
Merci en tout cas.
Oui, tout à fait. Merci. Merci Serge pour votre intervention.
Parce que ce sont des
remarques qui sont tout à fait justes et qui nous aident à recevoir gratuitement le repos, la grâce.
Pour revenir justement au thème, de venir à lui et de se mettre sous son joug. Son joug qui est doux et son fardeau léger. Alors c'est un peu paradoxal. Un fardeau, c'est lourd.
Alors, sinon, ça s'appelle une plume.
Ah oui, c'est pas pareil. Ah oui, alors, donc, comment faut-il entendre ce fardeau
léger ? C'est comme une voiture. Une voiture qui est au repos, elle pèse, une tonne. Enfin, une petite voiture doit bien peser une tonne. Mais si elle est lancée à 150 à l'heure, elle ne pèse plus que quelques kilos. Alors, se mettre sous le joug de Jésus et avancer à sa vitesse fait que, selon certaines lois que je n'arrive pas à définir, le fardeau devient extrêmement léger. Il faut croire que Jésus a cette capacité de mettre une main vers l'arrière de ce fardeau et il le soulève.
Il le soulève.
Et du coup, nous tirons un fardeau qui ne pèse plus que quelques kilos. Et ça, on le sent quand on a des gros soucis. On se dit, tiens.
Il prend sur lui, il a pris.
Et on se dit, ça n'a plus d'emprise, ça ne me pèse plus. D'ailleurs, c'est bien cette expression. Qu'est-ce que ça me pèse Tu ne peux pas savoir ce que ça me pèse, cette chose-là.
Et là, tout d'un coup, le fardeau, c'est ça.
Ça ne pèse plus.
On ne sait pas comment, sauf qu'on s'est mis sous son joug.
On est sous son joug, c'est lui qui porte la charge. Et d'ailleurs, on dit également, je me repose sur lui. C'est très curieux, Je me repose sur lui. Voilà. Alors, il nous faut arriver, sous le joug, à nous reposer sur Jésus. Il tire la charge, et la charge devient légère. Et dans la confiance, on est sous le joug, donc le joug n'est pas rugueux, il est doux. Il est doux, du moins pour ceux qui suivent Dieu par amour. Il reste sous le joug, sans se regimber. Mm-hmm. Hein, et chacun sait que si on a des menottes et qu'on commence à remuer les menottes dans tous les sens, ben, etc., on va se blesser.
Les poignets, bien sûr.
Mais si on garde les menottes sans bouger, on n'aura pas mal. Mm-hmm. Hein, si on accepte.
Hein. Oui, alors, c'est le même principe que le joug.
Voilà, c'est le même principe, mais pour d'autres lois spirituelles. Oui. Je me soumets au Seigneur, j'ai confiance en lui, donc je bouge pas sans arrêt sous le joug. Je ne suis pas en révolte. Je n'enseigne pas Dieu. Je n'enseigne pas Jésus en lui disant Jésus, faudrait plutôt aller par là. Hein. Je me laisse faire. Je me laisse conduire. Et là, ça marche. Ça marche. Et tout ça, c'est de l'expérience.
Ben oui.
C'est-à-dire, Si on en reste aux paroles, on va pas le mettre en pratique, ça. Et si on rentre dans ces choses-là, on s'apercevra que c'est vrai.
Et voilà, c'est tout à fait ce que nous allons écouter tout de suite avec les Fraternités monastiques de Jérusalem. Tu nous conduis, Seigneur.
Et on aura un petit temps de prière après.
Tout de suite après, nous allons prier. Mais laissons-nous conduire par le Seigneur.
Radio Notre-Dame.
Tu nous conduis, Seigneur, hein, par ces chemins à lui, qui sont, finalement, on ne les connaît pas, mais on peut faire confiance, lui faire confiance. Nous allons justement prendre, comme on le fait chaque fois,
un petit temps de prière,
et on va prier pour tous nos auditeurs qui sont particulièrement accablés, qui peinent sous le poids du fardeau, qui sont chargés, fatigués. Et voilà, Antoine qui vient de nous appeler. Voilà, particulièrement pour lui aussi. Il dit qu'il est accablé d'épreuves et qu'il ne sait comment s'en sortir. Alors, voilà, le Seigneur connaît le cœur de chacun, connaît le poids qui peut accabler chacun de nous. Et donc, on va lui remettre tout cela déjà.
Bien sûr. Et nous invitons nos amis auditeurs, auditrices, à maintenant se recueillir quelques instants dans la simplicité des enfants. Hein, ce moment de prière, ça sera simple. C'est la prière du cœur, c'est celle-là que Dieu entend. Et je vous invite donc à pour ceux qui le veulent, à fermer vos yeux, à vous recueillir et à croire, parce que c'est un fait, à croire que Jésus est présent chez vous, maintenant, chez vous, même en vous, et il va vous bénir là où vous êtes, où que vous soyez, quel que soit votre avancement spirituel, quelle que soit la confession chrétienne à laquelle vous appartenez, quels que soient vos fardeaux, quels que soient même vos péchés que vous avez commis, le Seigneur maintenant vient vous bénir et croyez vraiment qu'il va poser sa main sur vous, il va vous imposer les mains pour que vous receviez maintenant la grâce. Seigneur, nous te prions ici, depuis le studio, pour nos amis qui ont des âges différents, des cultures différentes, des problèmes différents. Nous demandons que tu n'oublies personne. Nous pensons à Antoine qui a eu le courage de téléphoner pour dire que ça allait pas, qu'il était dans des épreuves difficiles. Seigneur, bénis Antoine. Bénis-le maintenant. Soulage-le de ses épreuves. Et nous demandons que son fardeau devienne léger. Et que son joug soit doux. Et nous le demandons pour tous ceux et celles qui se recueillent pendant ce moment de prière, où nous voulons toucher ton cœur, Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons, nous te demandons pardon pour nos péchés. Nous te demandons pardon parfois pour notre mauvaise vie. Nous sommes quelquefois comme des enfants prodigues qui revenons sans cesse vers toi. Pardonne notre instabilité, pardonne le peu de profondeur de nos vies, où nous disons beaucoup et nous ne faisons pas beaucoup. Où nous prenons des engagements les uns et les autres, et moi le premier, et nous avons du mal à les tenir. Eh bien Seigneur, pardonne nos offenses, comme il est dit dans notre Père, pardonne nos offenses. Et que ta volonté soit faite dans nos vies. Je veux prier maintenant pour tous ceux et celles qui veulent se placer sous ton joug, Seigneur, et qui ont compris par cette émission qu'ils doivent le faire. Et que ça tombera pas d'en haut, ça tombera pas du ciel, c'est à eux de se parquer en quelque sorte sous le joug. Eh bien Seigneur, bénis tous ceux et celles qui le font, qui prennent l'engagement de continuer à le faire après cet enseignement dans cette émission. Bénis tout particulièrement ces personnes et sois leur force dans les jours, semaines et mois qui vont suivre. Chers amis, recevez maintenant une grâce particulière. Celle dont vous avez besoin maintenant, maintenant, elle vous est donnée. Croyez que vous l'avez reçue et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as exaucés. Que tu es grand, que tu es puissant. Guéris les malades. Soulage tous ceux qui sont fatigués et chargés. Bénis vraiment ceux qui sont dans des impasses très difficiles. Tout cela, c'est par grâce que tu nous le donnes. Nous t'en remercions, Seigneur. Amen.
Amen. Merci pasteur Philippe Osnay pour cette prière qui a rejoint nos auditeurs ce soir, tous ceux qui justement sont accablés, qui cherchent le repos, qui sont fatigués, chargés, et qui décident ce soir de venir à Jésus, véritablement, qui décident de venir et de prendre son joug, parce que peut-être que certains aussi n'avaient pas compris exactement ce que c'est. Peut-être allait-il recevoir des consolations, peut-être, par-ci, par-là, dans des assemblées, dans des groupes. Mais voilà, ce soir, ont décidé de prendre le joug du Seigneur sur eux et d'écouter, de recevoir ses instructions. Hein, c'est important, se mettre à l'écoute. Donc, voilà, il se passe quelque chose là. Le Seigneur agit puissamment. Et puisque nous, vraiment, nous sommes dans cet état d'accueil, le Seigneur donne à profusion, hein, il donne toujours à profusion. Donc, nos cœurs s'ouvrent largement pour pouvoir accueillir toutes ces grâces qu'il veut nous donner maintenant et dans les jours et les semaines à venir.
J'aimerais dire quelques mots en disant oui et amen à vos paroles, Chantal. J'aimerais une minute m'adresser à ceux et celles qui sont dans le service de Dieu.
Oui.
Et qui donc ont sacrifié leur vie, ont donné leur vie, oui, en renonçant à leur propre volonté, à vie, pour marcher dans les pas du Seigneur définitivement. J'aimerais juste leur dire que ce n'est jamais facile. Et si un jour on s'est engagé à le faire, quelquefois on est tenté de s'écarter. Ça arrive à tout le monde. À tout le monde. Il y a des tentations. Jésus lui-même, quand il est rentré dans le ministère, a été tenté dans le désert.
Eh oui.
Le début de son ministère, ça a commencé comme ça, par la tentation. Ne trouvons pas cela anormal que nous soyons tentés, attaqués, voire persécutés de tous bords, parce que nous avons choisi ce chemin de l'appel de Dieu. Nous avons obéi à notre vocation. Et donc, nous avons plus de combats que d'autres. Il y a un combat plus grand sur notre tête et dans notre cœur. Ceci est tout à fait normal. Jésus l'a expérimenté. C'est pour ça qu'il priait la nuit. Il a expérimenté, les disciples également. Et dans le service de Dieu, on prend des coups. On prend des coups, on n'est pas écouté quelquefois, on a des sentiments d'injustice. Alors Jésus, lui, a vécu cela, l'injustice, et il n'a pas ouvert la bouche. C'est vrai qu'il faut quelquefois s'exprimer quand il y a une injustice. Mais il y a des moments où il faut se taire et laisser la justice de Dieu faire son œuvre. Alors j'aimerais vous encourager, vous tous et toutes qui avaient fait vœu vraiment d'obéir au Seigneur d'une manière éternelle, vous avez choisi la bonne voie. J'allais dire que vous êtes dans l'activité ministérielle. Vous êtes des ministres de Dieu. Et c'est pas peu dire. Et il veut vous bichonner tout spécialement. Donc recevez maintenant aussi la grâce. Recevez maintenant cette grâce. Prenez-la par la foi pour aller plus loin dans un chemin pas facile. Pas facile. On est beaucoup plus attaqué quand on est dans le service de Dieu. On fait face à beaucoup plus de montagnes. Les défis sont beaucoup plus importants. Et quelquefois, les défis sont financiers également. Alors, je vous invite à persévérer, à ne pas vous laisser faire et à proclamer la victoire du Seigneur sans que vous compreniez comment il va la susciter. Il ne faut pas chercher à comprendre, mais la proclamer sur chaque souci, chaque épreuve, chaque montagne, proclamez la victoire du Seigneur. Faites, s'il le faut, une liste écrite. Et tous les matins, vous désignez les problèmes et vous dites, Seigneur, ah, mais ça y est, tu l'as pris, c'est fait. Merci Jésus. Ne demandez pas, mais recevez déjà avec foi. Et vous verrez que dans ce combat de la proclamation de la victoire de Dieu, vous ressortirez vainqueur et Dieu aura exaucé vos prières. Mais il y aura un délai. Et c'est ça qui est difficile dans le service de Dieu.
Eh oui, c'est pas magique, hein, c'est pas.
Les délais, quelquefois, sont longs. Hein, ils sont longs. C'est comme ça. C'est comme ça. On est appelé.
Ça éprouve notre foi.
Oui, et on est appelé certainement à souffrir plus que d'autres. Hein, pourquoi? Bah parce qu'on donne notre vie et c'est une souffrance. Mais il ne faut pas lâcher, d'accord?
Tenir bon. Donc, dans la foi.
Il faut tenir bon. Il faut serrer les dents. Et surtout, prendre la force de Dieu pour aller plus loin, comme Élie, qui a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb.
Mais il a été aussi, il a eu des épreuves, il n'en pouvait plus. Hein.
Ben, il était condamné à mort.
Hein. Mais il y a des moments où il voulait, voilà, il, ne plus avancer. Puis...
Ah ben, il a demandé la mort.
Ben oui, c'est ça.
Lui qui était condamné à mort par Jézabel, qui la faisait chercher partout, il a pris la fuite. Et la première chose qu'il a fait, c'est de demander la mort. Voilà, il était découragé. Et on peut être comme ça dans le service de Dieu et dire, bon, maintenant, il y en a marre. Voilà, alors ça arrive à tout le monde. J'y suis passé, j'y passerai peut-être encore. Il faut toujours se relever. Toujours se relever.
Comme Jésus, hein, quand il est tombé,
il s'est relevé. Il se relevait, voilà.
Et là, c'est avec lui. Et il faut savoir aussi que c'est la... notre baptême, hein, on a la puissance du Seigneur à travers sa puissance qui agit.
Le baptême, ça a été comme un ensevelissement de la vieille nature. Et nous revêtons l'homme nouveau, la nouvelle créature. Donc l'homme nouveau doit croire aux promesses de Dieu. Et quand l'homme nouveau est accablé, il proclame la vérité.
Victoire,
et la vérité, c'est dans la parole de Dieu, dans les paroles de Jésus même. Et dans ces paroles, il y a la victoire. Alors, c'est ça le chemin, mais le raisonnement humain ou le raisonnement spirituel n'y arrivera pas par lui-même.
Non, c'est pas par le raisonnement humain, bien sûr.
Par la proclamation
de la victoire de Jésus.
Victoire de Jésus au travers de sa parole. Voilà, Chantal.
Eh bien, voilà le programme et l'exhortation pour chacune de nos vies. Merci, un grand merci, pasteur Philippe Osné. Merci également à tous nos auditeurs. Merci à ceux qui sont passés, ceux qui n'ont pas pu passer. Aussi, merci aussi à Daniel qui vous accueillait au standard ce soir et à Paul qui était à la technique.